œuvré pendant 23 ans. C'est déjà pas mal, 23 ans. Et donc, je suis heureux et puis un petit peu ému de collaborer pour cet après-midi ensemble. En fait, c'est toi qui as choisi un petit peu le sujet. J'avais proposé, je crois, 3 ou 4 sujets dans les évangiles parce que je savais que Philippe aimait bien les évangiles et puis tu as tranché entre les 3. Donc, pour ne pas déroger aux habitudes, aux bonnes habitudes, enfin bonnes entre guillemets, de la grange, nous avons représenté les quatre sujets, les 4 grandes étapes de la vie de Jésus. Donc, derrière nous, la crèche, Gethsémané qui veut dire pressoir à huile. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. La croix qui nous vient de la fabrication de Jean-Luc Noalite, elle était dans la vitrine de l'église à Annonay, à un moment donné. Et donc le tombeau oriental. Bon, les symboles, les images sont de peu d'importance, mais ça peut fixer un petit peu les choses. Et donc la crèche, Gethsémané, la Golgotha, le matin de Pâques, ce sont des grands sujets, des sujets saints. Et on a besoin pour tous les deux, pour parler de ces sujets, d'abord de se recommander au Seigneur, à son aide, si tu veux venir. Si vous voulez bien vous lever, on va lui demander son aide. Seigneur Jésus, c'est à la fois facile et difficile de parler de toi. C'est facile comme une fiancée qui parle de son fiancé parce que il fait vibrer son cœur. Elle le connaît bien. Mais c'est aussi difficile parce que, comme c'est toi, nous sommes devant toi au balcon de l'infini. Tu es une personne divine venue dans l'humanité. Avec toi, Seigneur, tout prend des dimensions infinies, puisque tu es infini. Et nous sommes de toutes petites créatures de rien du tout, devant toi. Alors nous sentons tous les deux la nécessité de te demander ton secours, un secours d'en haut, le secours divin, le secours de ton esprit, parce que tu as dit de l'esprit qu'il te glorifierait, qu'il prendrait des choses qui sont à toi et nous les annoncerait. Alors ce n'est pas nos ministères à tous les deux, c'est le ministère de l'esprit qui se plaît à te glorifier devant les croyants. Alors Seigneur, fais-nous du bien cet après-midi, passe au milieu de nous, visite-nous, fais vibrer un peu nos cœurs pour toi, au milieu de ce monde où tu es passé, où tu as été rejeté, ce monde que tu as quitté, mais où tu as laissé les tiens. Alors oui, fais-nous du bien. Nous t'en prions pour ta gloire et pour notre joie. Amen.
Amen.
Donc je passe la parole à mon frère Philippe et nous allons présenter alternativement les 4 sujets séparés par un cantique. C'est pour ça qu'on n'en a pas chanté au début. Mais je disais à Philippe, de toute façon, ici, il y a des choses qui ne sont pas forcément normatives, mais de toute façon, c'est jamais normatif de commencer une réunion par un cantique. Nous allons les chanter après les présentations, chaque présentation.
toutes et à tous. C'est donc à moi qu'il revient de présenter cette première étape de la vie de notre cher Sauveur. Comme l'a dit Lucien, du balcon de l'infini, toute cette histoire absolument extraordinaire, absolument unique, commence à Bethléem, la venue du Fils de Dieu sur cette terre s'est produite à Bethléem. Et je vous propose donc de commencer à lire sept versets dans le deuxième chapitre de l'évangile de Luc, un des deux évangiles de l'enfance du Seigneur. Évangile selon Luc, au chapitre 2, je lirai d'abord les sept premiers versets. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrénus ou Quirinus eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà, le premier point sur Bethléem, c'est le fait historique. Jésus-Christ est né à Bethléem. Et il y en a une trace, c'est vraiment bien calé dans l'histoire des hommes, grâce à ce recensement décrété par César Auguste, l'empereur César Auguste, qui a régné de 53 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Et l'on sait qu'il y a deux recensements. Il y a celui-ci qui est mentionné ici par Luc, et puis il y a un deuxième recensement dont parle l'écrivain juif Flavius Joseph. Celui-ci eut lieu entre moins 7 et moins 2 avant Jésus-Christ, alors que le second recensement a eu lieu en 6 après Jésus-Christ. Et donc, grâce à ce gouverneur, qui était un légat d'Auguste, Legatus Augusti, on disait à l'époque, gouverneur, donc on dit, de la Syrie, c'est sous ce gouverneur, Quirinus ou Cyrénus, qu'eut lieu ce recensement, qui est donc la preuve historique de la naissance de Jésus-Christ. Je voudrais poursuivre cette lecture. Oui, simplement encore un mot à propos de ce recensement. Vous voyez, on voit que Joseph et Marie ont dû partir pour Bethléem pour se faire recenser, et non pas à Nazareth. Ce recensement-là, était fait selon la tradition juive, où les familles devaient se regrouper par tribu et par famille pour se faire recenser. C'est pourquoi ils ont fait ce voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem. Et normalement, ils auraient dû retourner à Nazareth. Et Marie, son terme était là, elle a dû accoucher à Bethléem. Et cela selon la prophétie que nous allons envisager après de Michée, pour accomplir cette prophétie, si nous osons dire. Je continuerai à lire quelques versets dans ce chapitre 2 de Luc, du verset 8 au verset 20. Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite, touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par-devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Quelle révélation faite à des bergers! Alors, on ne peut être que surpris d'un côté et tellement enthousiaste de voir que le grand Dieu des cieux se révèle d'abord à des bergers. Et c'est d'autant plus touchant que le Seigneur Jésus lui-même s'est qualifié du berger, avec un grand B, le berger de nos âmes. Et lui-même est venu en se révélant d'abord à des bergers. En annonçant par le moyen des anges et de toute la gloire céleste, en annonçant cette naissance à Bethléem. Alors, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Bethléem, c'est un territoire vallonné. Il y a beaucoup plus de rochers que de verdure, et on peut parfois se demander où ces brebis trouvaient de quoi paître ce dont elles avaient besoin. Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de rochers, d'anfractuosités, de petites grottes. Et c'est dans une de ces grottes, dans la discrétion la plus complète, que le roi du ciel est né ici-bas, sur cette terre. Ça, c'est le fait historique. Et pour terminer ce point historique, la meilleure preuve aussi de l'historicité de cette naissance, c'est notre calendrier, qui est maintenant un calendrier mondial, puisque nous sommes en l'an de grâce 2016. Tout est rattaché dans le monde entier, même s'il y a d'autres calendriers, et notamment le calendrier juif. Tout est rattaché à la naissance de notre Sauveur. Ça, c'est impressionnant. Même si, au Moyen-Âge, au 5e siècle, le moine Denis le Petit, Denis, D-E-N-Y-S, s'est trompé de 4 années à peu près. Il s'est basé, comme à l'époque, sur la fondation de Rome, et il est parti sur 754 avant Christ, alors qu'en fait, à la naissance du Seigneur, on était en 750, après la création de la fondation de Rome. Et d'où ces 4 années de différence qui fait que, en fait, le Seigneur est né en -4, -5, -4, et non pas en l'an 0. Mais ceci dit, c'est bien la naissance du Seigneur qui encore aujourd'hui, pour le monde entier, désigne un fait historique qu'on ne peut nier. Alors, cette naissance, deuxième point de cette présentation, cette naissance a été annoncée dans l'Ancien Testament. Et je prendrai simplement deux passages parmi les plus connus. C'est d'abord dans le prophète Ésaïe. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 7, nous trouvons, il est mentionné, 7 à 8 siècles avant sa naissance, il est mentionné le moyen par lequel le Messie viendra et le nom qu'on lui donnera. On peut lire en en Ésaïe 7, au verset 14, simplement. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe, un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Dès 8 siècles avant sa naissance, il était annoncé qu'il devrait naître d'une vierge, donc d'une toute jeune fille, qui avait peut-être 16 ans. Et elle devait l'appeler Emmanuel, comme nous le confirmera l'évangile de Matthieu. Et puis le deuxième passage, c'est ce qu'on appelle un petit prophète, le prophète Michée. Le prophète Michée, c'est au chapitre 5, où là il est fait mention du lieu de la naissance. Donc le moyen de sa naissance, une vierge, son nom, Emmanuel, et puis là on voit le lieu, 8 siècles avant Jésus-Christ. Michée chapitre 5, c'est la parenthèse du verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » Bethléem, la maison du pain, Bethléem. Ephrata qui veut dire la fertile. C'est du nom d'un clan calébite de la tribu de Caleb, la famille de Caleb. Nous savons que c'est à Ephrata qu'est décédée Rachel, la chère épouse de Jacob. Et c'est en cette ville qu'est annoncée 8 siècles auparavant la naissance de celui qui doit dominer en Israël, le Messie d'Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, ce qui prouve qu'il est fils éternel. C'est bien de lui dont il est question là. Troisième point de cette partie, c'est le mystère de l'incarnation. On ne peut être que impressionné quand on pense au fait que Dieu, fils de Dieu, Dieu lui-même, a voulu, a désiré s'incarner, c'est-à-dire prendre un corps formé de chair comme le nôtre, à part le péché. Et je prendrai simplement deux passages qui soulignent cette incarnation. C'est d'abord dans la première à Timothée, à la fin du chapitre 3, le début du verset 16. Le mystère de l'incarnation. 1 Timothée 3, le tout début du verset 16 nous dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a pris un corps. Il a pris un corps pour pouvoir mourir pour nous, parce qu'étant Dieu, il ne pouvait mourir. C'est pourquoi il a dû prendre un corps. Il a été manifesté en chair. Ça nous souligne ce qu'on a appelé la double nature du Seigneur Jésus. Il ne faut pas oublier que s'il est Dieu, s'il est resté Dieu sur la terre, il était en même temps un homme. Il avait cette double nature que lui seul avait. Nous sommes des humains. Nous n'avons rien de divin en nous. Lui était et Dieu et homme. C'est un mystère à nul autre pareil, qui ne s'est jamais produit, qui ne se reproduira plus jamais. Et le deuxième passage, qui souligne justement le fait qu'il ait pris chair, c'est en Hébreu 2, Épître aux Hébreux, chapitre 2, le début du verset 14, simplement. Hébreux 2, début du verset 14. « Puisse donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé. Et après, le verset continue, afin que, par la mort, s'il a pris un corps, c'est pour pouvoir mourir, afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, comme nous, les enfants de Dieu, qui avons part au sang et à la chair, le Fils de Dieu, le Fils éternel, lui aussi, semblablement, y a participé. Il a eu une chair et du sang qui a pu couler à la croix de Golgotha. Lucien nous en parlera certainement. Donc, ce mystère de l'incarnation se révèle ici dans cette double nature, homme et Dieu, du Christ Jésus. Le quatrième point, je reviendrai d'abord dans Luc, c'est quelques personnes attendaient sa venue. On va d'abord parler de Siméon, ce vieillard pieux. Alors, en Luc 2, on revient au chapitre 2 de Luc, à partir du verset 25, on peut lire l'histoire de Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement, il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, la présentation, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Quelle foi ! Lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Et son père et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et même une épée transpercera ta propre âme, on peut penser à Golgotha, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Voilà, une révélation qui a été faite à ce vieillard Siméon, à la fin de sa vie, par l'Esprit Saint. Il avait été conduit par l'Esprit Saint à aller au temple ce jour-là, alors que Marie et Joseph amenaient le petit enfant Jésus. Et le Seigneur lui avait promis qu'il ne verrait pas la mort sans qu'il voie le salut de Dieu. Et en voyant ce petit enfant, qui était tout à fait semblable à tous les petits enfants qui rentraient au temple ce matin-là, eh bien, en voyant ce petit enfant, l'Esprit Saint lui dit, c'est lui. Et du coup, il a béni Joseph et Marie. Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé pour ton peuple Israël, non, pour tous les peuples, pour un juif pieux. Imaginons-nous ce que c'est que de dire pour tous les peuples, une lumière, alors qu'il avait un petit enfant, une lumière, et ce petit enfant, 30 années plus tard, dira, moi, je suis la lumière du monde. Et tout ça, Siméon l'avait discerné, parce qu'il était juste, parce qu'il était pieux, parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Il y a un deuxième personnage, c'est la prophétesse Anne, que nous voyons au verset 36, qui attendait aussi la venue du Messie. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière, nuit et jour. Celle-ci, survenant en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui qui à Jérusalem attendait la délivrance. Alors voilà un personnage, un deuxième personnage important qui attendait le Messie. Mais au verset 38, nous venons de lire qu'il y en avait plusieurs à Jérusalem qui attendaient la délivrance. Il était donc attendu par quelques-uns. Et puis, je voudrais maintenant en venir au deuxième évangile de l'enfance. C'est l'évangile de Matthieu. Parce que parmi ceux qui attendaient sa venue, il n'y avait pas que des Juifs. Et là aussi, on peut être surpris. Je veux parler des mages. En Matthieu 2, je lirai simplement les deux premiers versets et le 11e. Matthieu 2. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ?» Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Et au verset 11, et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternant, ils lui rendirent hommage et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons de l'or et de l'encens. Et de la myrrhe. Ces mages, c'étaient des astrologues orientaux, zoroastriens. Ils adoraient les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. C'étaient donc des païens. Mais dans tout l'Orient ancien, on avait entendu parler depuis longtemps qu'un messie, un roi des Juifs, devait naître. Et du coup, ces spécialistes des étoiles ont vu dans le ciel une étoile particulière qui les a dirigés vers Bethléem. En tout cas, vers la Judée. Puis ensuite, en demandant à Hérode, qui a demandé aux scribes, ils ont appris que c'était à Bethléem qu'il fallait aller. Donc, ça veut dire que Dieu, en voulant naître sur la terre, ne venait pas que pour son peuple, il venait pour tous les peuples. Et ces mages, quoique de façon indistincte, bien sûr, pas éclairés comme un vieillard Siméon, mais ces mages aussi attendaient le Messie des Juifs. Ce sont les évangiles apocryphes qui nous ont dit que c'était des rois. On les appelle maintenant les rois mages. Et en fait, ce sont des mages. C'est au 5e siècle qu'on a dit qu'ils étaient trois, sans doute à cause du nombre de dons, de présents. En fait, on ne sait pas leur nombre, Matthieu ne l'indique pas. C'est au 7e siècle qu'on les a nommés Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais là aussi, leurs noms ne sont pas donnés, comme pour souligner une humilité. Et puis, on peut dire que ces trois présents, ces trois dons qu'ils ont faits, on a vu qu'ils ont offert de l'or, ce qui souligne la royauté du Christ. Ils ont offert de l'encens, ce qui souligne sa divinité, la nécessité d'une adoration. Et puis, ils ont offert de la myrrhe, ce qui souligne des souffrances et sa sépulture. Et puis enfin, ces mages, on les a supposés au XVe siècle, on les a supposés blancs, jaunes et noirs, ce qui symbolise bien entendu l'ensemble de l'humanité. Pour terminer cette partie, j'essaierai de trouver quelques conséquences de l'incarnation de notre Seigneur à Bethléem. Je reprendrai dans l'évangile de Luc. D'abord, au premier chapitre, à la fin du premier chapitre, nous voyons là quelque chose de beau concernant l'amour de Dieu et la lumière que Dieu apporte par Jésus-Christ. À la fin de Luc 1, nous lisons, au verset 78, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de faire luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Voilà, à mon sens, les trois conséquences de l'incarnation. D'une part, l'amour de Dieu. Ce sont les entrailles de miséricorde de notre Dieu qui ont vibré en nous donnant Jésus-Christ à la croix. À la croix, bien sûr, mais déjà à Bethléem, sous la forme d'un petit enfant. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est d'être le Dieu Tout-Puissant et de venir sous la forme d'un petit enfant, entièrement dépendant de ses parents, incapable de se défendre en quoi que ce soit? Quelle dépendance! Eh bien, ça, c'est l'amour de Dieu. C'est les entrailles de miséricorde. Ce qui nous fait chaud dans le ventre, les entrailles de miséricorde, le cœur de Dieu qui vient à la rencontre de notre misère. L'amour de Dieu. Ensuite, c'est l'Orient d'en haut qui nous a visités. Tout le monde sait que le soleil se lève à l'est. Seigneur Jésus est venu de l'Orient nous visiter. Il est pour faire luire la lumière dans nos cœurs. Et puis, enfin, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. En venant et en naissant à Bethléem, il nous a apporté l'amour, il nous a apporté la lumière, il nous a apporté la paix. Les anges l'ont dit au chapitre 2, verset 14 que nous avons lu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix. Et sur la terre paix. Alors rapidement, je voudrais lire trois ou quatre passages en rapport avec la paix. Vous voyez, quand le Seigneur est venu sur la terre, lui le prince de la paix, selon Ésaïe 9, le prince de la paix est venu sur la terre apporter la paix. Quand nous prenons le chapitre 19 de Luc, un verset au chapitre 19, le verset 38. Le Seigneur était à Jérusalem alors, c'était la fin de son ministère. Luc 19, verset 38. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, le jour des rameaux, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors ça nous parle. Parce que quand il est né, la paix est descendue sur la terre. Comme là, il était d'ores et déjà rejeté, la paix était déjà remontée au ciel. Alors on comprend pourquoi il y a autant de guerres, autant de meurtres, autant de violences sur cette terre. La paix de Dieu n'y est plus. Et alors, pour nous, c'est dans Jean que nous avons une réponse d'amour apportée par le Seigneur lui-même avant de quitter les siens. Dans cette dernière semaine, c'est en Jean 14, le verset 27, pour les siens, pour ceux qui ont cru en lui, qui ont cette foi en lui. Eh bien, regardez ce qu'il dit au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour nous, nous avons la paix du Seigneur en nous. Ce n'est pas comme dans le monde. Et enfin, là, pour entrer sur un terrain éternel, c'est le soir de la résurrection, en Jean 20. En Jean 20, la première parole que le Christ ressuscité dit, peut-être Lucien y reviendra, Jean 20, verset 20, ou la fin du verset 19, il leur dit, « Paix vous soit, que la paix soit avec vous. » C'est le shalom hébreu. Et enfin, tout dernier passage, c'est en 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, versets 46 à 49, tout à fait terminé. 1 Corinthiens 15, mais ce qui est spirituel, verset 46, n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme, Adam, est tiré de la terre, poussière. Le second homme, Christ, est venu du ciel. Tel qu'est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, en vivant dans notre corps, nous porterons aussi l'image du céleste, ce corps glorieux que nous sommes appelés à revêtir grâce à la résurrection du Christ. Alors, je vous propose de chanter les deux premières strophes du 175. Voilà. On va se lever pour se réveiller.
Le ciel a visité.
Étape de la vie du Seigneur Jésus en lisant dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc 22, verset 39.
Lucien.
Ça marche pas? Ah, mais tu l'as fermé. Oui. Luc 22, verset 39. Et sortant, Jésus s'en alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, « Priez pour que vous n'entriez pas en tentation. » Et il s'éloigna d'eux lui-même environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Dormez dorénavant, levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Jusque-là. Alors, entre la crèche et Gethsémané, il y a un très grand intervalle. Il aurait fallu parler un petit peu de l'enfance de Jésus, enfin, ce qui nous en est dit, très peu, à l'âge de 12 ans. Il aurait fallu parler de son baptême au Jourdain, il aurait fallu parler de sa tentation au désert, il aurait fallu parler des 3 années et demie de son ministère, comment il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant, ressuscitant, manifestant la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Mais voilà, toute cette vie sainte, ce ministère d'amour et de grâce du Seigneur Jésus, oui, il a été reçu par certains, certains ont été touchés. Les prostituées se repentaient, les publicains venaient à Jésus pour confesser leurs péchés. Ceux qui étaient délivrés de maladies ou de à la fois délivrés de maladies et sauvés en même temps, puisque le terme grec sauvé et guéri, c'est à peu près similaire d'après ce qu'on entend. Eh bien, ceux-là se sont attachés à Jésus parce qu'ils ont Ils ont compris que Jésus était le Messie, le Saint-Fils de Dieu. Et puis il y a eu le groupe de disciples qui se sont attachés à Jésus. Mais d'autre part, par un fait paradoxal et incompréhensible, il y en a qui ont refusé, et en particulier les chefs des Juifs. Pourtant, ils avaient la Torah entre les mains. Ils avaient les oracles de Dieu. Et ils n'ont pas connu Jésus, ni la voix des prophètes qui se lisent chaque sabbat, dira plus tard Paul, Antioche de Pisidie. Et il y a une animosité qui était sourde au début contre Jésus et qui allait en s'amplifiant et qui est devenue une animosité cruelle et mortelle qui n'aura de cesse jusqu'à la croix. Et dans la dernière semaine, la semaine sainte, nous arrivons au vendredi, au jeudi. Jeudi et jeudi soir, le Seigneur institue la scène dans la chambre haute. Et puis, il part jusqu'à Gethsémané. Et c'est là, dans ce périple, qu'il donne des instructions à ses disciples que nous étudions dans l'évangile de Jean. Et il y a cette étape de Gethsémané. Et on aurait pu imaginer que le Seigneur Jésus s'en aille à la croix sans l'étape de Gethsémané. On pourrait le concevoir. Mais alors, il serait allé à la croix comme un stoïque. Vous savez, les stoïques dans le monde gréco-romain, c'était des gens très particuliers. Ils lançaient un défi à la douleur, les stoïques. Et j'ai lu le récit d'un homme, enfin, il était peut-être de toute façon condamné, mais il s'est ouvert les veines et il devait chanter et danser jusqu'à ce qu'il tombe. C'est ça le stoïque. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus devait aller à la croix? Ah non. Non, il appréhendait. Il avait devant lui cette terrible chose que la croix. Et Gethsémané souligne l'humanité du Seigneur Jésus et surtout le récit de Luc. Et combien c'est bouleversant de voir Jésus à genoux, le front par terre, suppliant le Père de lui épargner les souffrances de la croix. Mais enfin, que se passait-il? Jésus, qui avait été si calme, souvent, toujours, et là, bouleversé. Ah, ce qui se passe, c'est qu'il a devant lui la croix. La crucifixion, les souffrances de la croix d'abord. En sortant du jardin, il sait qu'il va être arrêté et que cette haine des hommes et des chefs en particulier va se déchaîner contre lui. Il le sait. Et que, on est jeudi soir, le lendemain, des clous terribles vont s'enfoncer dans ses poignets et dans ses chevilles. Il le sait. Il sait que tout le monde sera contre lui. Mais il sait encore. Et ça, c'est plus étonnant. Parce qu'après tout, nous savons que les hommes sont méchants. Mais il y a une chose qui est plus surprenante encore que les hommes soient contre lui, c'est que Dieu va être contre lui. Ça, c'est étonnant. Mais oui, parce que dans le moment de la croix, alors que les cris homicides vont se taire, et Philippe va en parler de la croix, Dieu va visiter sur lui l'iniquité des péchés de tous les croyants de tous les temps qui se sont confiés ou qui se confieront. Et ça, le Seigneur Jésus, il a devant lui cela et il est angoissé. Et il supplie que, s'il était possible, que cette coupe passe loin de moi, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Donc on voit dans ces passages qu'il y a deux volontés qui s'affrontent. Le Seigneur Jésus dit « ma volonté » et il dit « la volonté du Père ». Et là, deux volontés parfaites. La volonté de Jésus, que la croix lui soit épargnée, et la volonté de Dieu en face, que nous soyons sauvés. Et au final, le Seigneur Jésus va accepter cette volonté du Père que nous soyons sauvés, que par conséquent, il porte nos péchés sur la croix, il soit abandonné. C'est la pire des choses d'être abandonné. On ne peut pas mesurer ce que c'est pour lui. Sauf que nous voyons, nous en voyons ces effets terribles et même surnaturels, des grumeaux de sang découlant sur la terre. Ma volonté, ta volonté. Et comme il avait accepté au début l'incarnation, selon Philippiens 2, il n'a pas considéré comme une chose à maintenir à tout prix le rang qu'il égalait au Père, mais qui s'était anéanti. Maintenant, il accepte la croix. Maintenant, il y a une application à Gethsémani que j'aimerais faire. Il est communément admis, j'espère que vous l'admettez, que le Seigneur Jésus est un modèle en toutes les étapes de sa vie, toutes ses circonstances, sauf une, justement, quand il est abandonné de Dieu. Là, il est tout seul, il n'est pas un modèle, il est un substitut. Mais sinon, partout ailleurs, il est un modèle. Donc, à Gethsémani. Et je pense que je choquerai personne en disant que, modestement, nous avons tous nos petits Gethsémani. C'est-à-dire, nos acceptations. Des moments de crise où nous devons accepter certaines choses. Je pense que tous ici, nous avons accepté certaines choses. Je prendrai quelques exemples. D'abord, je voulais dire ma volonté et la volonté de Dieu. On dit quelquefois, on emploie cette expression, notre volonté propre. Bon, en voulant dire, c'était une volonté rebelle à Dieu, notre volonté d'homme pécheur. Oui, mais est-ce que ma volonté est toujours mauvaise? Est-ce que votre volonté est toujours mauvaise? Non, je ne crois pas. Celle du Seigneur, elle était parfaite. Mais la nôtre? Non, elle n'est pas toujours mauvaise. Je prendrai trois exemples. Un jeune homme, une jeune fille veut se marier. Je ne parle pas des célibataires par choix. Il y en a. Choisis cela. Il y en a qui ne choisissent pas. Il y en a qui voudraient se marier puis qu'ils ne trouvent pas de conjoint valable à leur hauteur. Vouloir se marier, c'est un péché? Ah ben non. C'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a établi le mariage. Sauf si c'est par choix de rester célibataire. Deuxième exemple, une future maman, elle est à quelques semaines, quelques jours peut-être d'accoucher, elle ne veut pas souffrir, enfin, le moins possible. Ne pas vouloir souffrir, avoir la volonté de ne pas souffrir, c'est un péché? Ah ben non, pas du tout. Troisième exemple, une personne âgée ne veut pas aller en maison de retraite. Et là, je suis ému en pensant à une sœur qui disait « Non, non, je ne peux pas pousser avec mon mari. Nous sommes 40 ans, depuis 40 ans dans cette maison. Non. » C'est un péché de ne pas vouloir aller en maison de retraite? Oh non, pas du tout. Et dans les trois cas, c'est pour éviter la souffrance, de la solitude, de la douleur, de l'isolement. Et là, dans les trois cas, et que je pourrais multiplier, eh bien, il y a l'acceptation, le chemin de l'acceptation. Et c'est pas une petite prière qui suffit. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et puis on n'en parle plus. Oh non. Non, 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 non. C'est un chemin d'acceptation. Et j'en veux pour preuve, c'est que le Seigneur Jésus a prié 3 fois. Vous vous êtes posé la question pourquoi il avait prié 3 fois, alors que une fois, le Père l'entendait. Il n'y a pas besoin de prier 3 fois. Oui, mais c'est parce que c'est un chemin d'acceptation. Et parfois un chemin de larmes, un chemin difficile. La preuve en est, c'est qu'en Hébreux 5, il est dit qu'il a offert de grands cris avec des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alors nous, dans nos acceptations, et encore je le dis une fois, je pense qu'il n'y a peut-être pas une personne, en tout cas adulte, là, qui n'a pas des choses à accepter, c'est-à-dire des choses qui sont contre notre volonté, mais qu'il nous faut accepter comme étant la volonté de Dieu. Alors si c'est le cas, il peut y avoir des croyants là qui sont dans des moments de crise, parce que Gethsémané, ça a été un moment de crise pour notre Seigneur. Eh bien, peut-être qu'il nous faut nous agenouiller en esprit, à côté de notre maître. Vous le voyez en esprit, là, dans le jardin. Il faut nous agenouiller à côté de lui, il à genoux. Et dire aussi, emprunter ses paroles. Et dire, peut-être dans les larmes, que ce ne soit pas ma volonté. Elle est bonne, mais la tienne, qui soit faite. Alors, j'ai pensé à 2 strophes de cantique pour illustrer cette acceptation dans nos vies. Alors, c'est le 252, Philippe. 252. J'en ai trouvé 2. C'est la première strophe, oui. 252, on peut faire cette prière de la première strophe.
Donne-moi, Seigneur, la vraie sérénité. Donne-la-moi, mon sauveur. Je n'aurais pas choisi peut-être mon chemin tel que Dieu l'a fait, mais j'accepte sans un regret.
de Golgotha. Golgotha en araméen, qui veut dire le crâne, le lieu du crâne. Alors, sur le plan historique, plusieurs peuples de l'Antiquité ont utilisé la croix pour punir les malfaiteurs. Et déjà sous Alexandre le Grand, historiquement, il y a à peu près 2000 Tyriens, les habitants de Tyr, en Phénicie, qui avaient été crucifiés. Donc cela remontait avant Rome. Et puis en 7 après Jésus-Christ, un procurateur romain en Palestine qui a fait crucifier 2000 personnes en une fois, si j'ose dire. Autrefois, c'était un pieu qu'on dressait, sur lequel on attachait, puis on clouait le condamné. Ensuite, on a positionné une transversale, une barre en travers, en haut de la croix, qu'on appelait le patibulum. Et ces crucifiés étaient généralement fouettés au préalable. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 19, deux versets simplement, concernant Jésus, bien sûr. Jean 19, « Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. » C'était le préalable incontournable. Et puis, au verset 17, « Et il sortit portant sa croix et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où il le crucifiait. » Donc on pense qu'il ne portait que la transversale à ce moment-là. Cette croix était réservée aux esclaves, ou alors aux hommes libres, mais qui avaient commis un acte particulièrement odieux. C'est seulement plus tard, sous l'Empire, que certains citoyens romains ont été crucifiés. Alors, il faut savoir qu'on ne mourait pas des clous qu'on enfonçait dans les poignets ou dans les pieds. On mourait généralement après plusieurs jours de souffrance, on mourait en fait de faim et de soif. Et il faut savoir également que le crucifié, il était nu sur la croix. Les peintres ou les sculpteurs, dans un esprit de décence, mettent un linge sur le bassin du crucifié. En fait, les personnes étaient nues et elles faisaient tout sur elles, bien entendu, pendant plusieurs jours, soumis au quolibet des gens qui passaient. Alors c'est pour ça que tout à l'heure, j'indiquerai la strophe 3 du 43, « Dans la honte a brillé ta gloire ». C'est là qu'on réalise un petit peu qu'est-ce que c'était que d'être crucifié. Quand les crucifiés mettaient trop longtemps à mourir, ou, comme dans le cas de l'Évangile, quand c'était la veille d'un jour de fête, pour accélérer leur mort, on leur rompait les jambes. C'est ce que nous voyons au verset 32 de ce même chapitre 19 de Jean. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais, étant venu à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Et enfin, historiquement, c'est sous l'empereur Constantin, au IVe siècle, que pour des motifs religieux, puisqu'il était devenu chrétien, il a fait abolir la crucifixion. IVe siècle. Alors, je prendrai maintenant quelques passages dans l'Ancien Testament pour montrer que la crucifixion, en tout cas la mort du Seigneur, était annoncée d'abord dans le prophète Daniel. Daniel, au chapitre 9 et au verset 26. Daniel 9, verset 26. Et après les 62 semaines, ce sont des semaines d'années, pas des semaines de jours. Donc ça représente 434 ans. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Le Messie sera retranché. Cela nous parle de la mort du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53. On peut voir par exemple au verset 8. Ésaïe 53, verset 8, il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Dans le Deutéronome, deux versets en Deutéronome 21, Deutéronome 21, la fin du chapitre. Si un homme a commis un péché digne de mort, qu'il ait été mis à mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Celui qui est pendu est malédiction de Dieu. C'est ce verset qui fait dire à Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, que le Seigneur Jésus a été fait malédiction pour nous. Lui, la source de toute bénédiction, a été fait malédiction parce qu'il a été pendu au bois. Et puis, dans le prophète Jérémie, un titre prophétique du Seigneur, c'est en Jérémie 11. Jérémie 11, verset 19, quand nous lisons ce verset, plusieurs siècles avant la mort du Seigneur, nous avons là un type intéressant, si j'ose dire. C'est le verset 19 de Jérémie 11. « Et moi, j'étais comme un agneau familier qui est mené à la tuerie. Et je ne savais pas qu'il faisait des complots contre moi, disant, « Détruisons l'arbre avec son fruit et retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de son nom. Retranchons-le de la terre des vivants. » Voilà ce qui était promis à Jérémie. Lui, il ne savait pas qu'il faisait des complots contre lui, tandis que le Seigneur, lui, savait toute chose. Les gloires de Golgotha. Alors, pour essayer d'appréhender un peu ce que l'on peut appeler les gloires de Golgotha, en fait, j'ai pensé aux sept paroles que le Christ a prononcées sur la croix. Et ces sept paroles font ressortir, me semble-t-il, quelques-unes des gloires de la croix. La première est en Luc 23, verset 33 et le début du 34. Luc 23, 33, et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Au lieu, comme n'importe quel homme, de crier vengeance, d'autant plus lui qui était sans péché, qui n'avait jamais rien fait, qui ne se dut faire, au lieu de cela, il dit à son Père de nous pardonner. Ça, c'est une gloire. Quel amour! Il pensait à nous dans ce moment-là, alors qu'il subissait une mort infâme. Première parole. La deuxième est au verset 43. Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Là encore. Il pensait aux brigands repentants. Et pour nous, c'est quelque chose de glorieux, parce que de savoir que si nous croyons au Christ, nous serons avec lui pour toujours dans le paradis. Le troisième passage est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, à nouveau. En Jean 19, versets 26 et 27. Jésus donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Là encore, quelle compassion, alors qu'il souffrait terriblement, quelle compassion de penser ainsi à sa mère et à la recommander à son disciple bien-aimé. Et pareillement, Jean confié à sa mère, Marie. Nous savons que dans la théologie catholique, c'est là des versets qu'ils ont appliqués à l'ensemble de la chrétienté. Marie étant la mère de tout croyant, de tout chrétien. Et donc, quand le Seigneur confie, pour les catholiques, et quand le Seigneur confie Jean à sa mère et sa mère à son fils, Jean confié à sa mère, c'est l'Église, l'ensemble des croyants confié à Marie. Ça, c'est très beau comme pensée. Et puis alors, ensuite, c'est la troisième, la quatrième parole, on peut la prendre par exemple dans Matthieu ou en Marc, Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 46, qu'a cité Lucien. Matthieu 27, verset 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, nous pensons bien qu'il s'agit plus que de la récitation du psaume 22. Son Dieu l'a abandonné, parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Ce n'est pas son Père qui l'a abandonné, c'est son Dieu, le Dieu Saint, qui ne pouvait absolument pas être en communion avec le péché. Il a été abandonné pour nous. Il a accepté cela. Il est allé jusqu'au bout. Et ça, c'est une gloire à nul autre semblable. Et vraiment, celle-ci, on ne peut pas y rentrer. On ne peut que l'appréhender de loin. Ensuite, il y a cette parole à nouveau en Jean 19. Il y a deux paroles à nouveau en Jean 19. Cinquième et sixième parole. En Jean 19. C'est le verset 28. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Mais quelle gloire! Dans un moment pareil, il accomplissait les Écritures, toutes les Écritures. Il était le Verbe, la parole. Et ça, ça nous le montre tout particulièrement. Il suffit de regarder le psaume 69. Psaume 69, le verset 21. Psaume 69, verset 21. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et dans ma soif, il a dit j'ai soif, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre pour essayer de calmer les souffrances. Ensuite, la sixième parole est au verset 30. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit c'est accompli, en grec, tétélestai. Et ça veut dire, c'est remis, c'est payé. La dette est payée. Quelle gloire pour nous. Il a accompli notre délivrance, parfaitement, complètement. Et puis enfin, la septième parole, à nouveau en Luc 23, le verset 46. Luc 23, 46, et Jésus criant à haute voix dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. Il est entré volontairement dans la mort, avec une haute voix, il a dit cela. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, un crucifié, il meurt asphyxié, il ne peut plus parler, encore moins crier. Là, le Seigneur était dans la pleine possession corporelle. Il n'était pas du tout mourant. Il n'y avait que 6 heures qu'il était sur la croix, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il a pu crier avec une forte voix. Et c'est là que que dans une volonté toute divine et uniquement divine, il a pu remettre son esprit entre les mains de son Père. Et c'est beau de considérer que sa première parole, il l'adresse à son Père, sa dernière parole, il l'adresse à son Père. Quelle gloire dans la croix de Golgotha. Et pour terminer, j'essaierai de tirer quelques conséquences de l'œuvre de la croix à Golgotha. D'abord, dans l'Épître aux Galates, au moins 5 passages en rapport avec des conséquences. Dans l'Épître aux Galates, c'est l'apôtre Paul qui nous éclaire là-dessus. En Galates 6, Galates 6, le verset 14. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Voilà, la seule gloire que l'on peut retirer, c'est en la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis si important. Quand je dis « je », c'est évidemment nous tous. Nous sommes si importants aux yeux de Dieu qu'il a fallu rien moins que son propre Fils vienne mourir sur la croix de Golgotha pour moi, pour nous. C'est en cela qu'on peut se glorifier. C'est pour dire à quel point on est important aux yeux de Dieu que son Fils soit obligé de mourir pour chacun d'entre nous sur la croix de Golgotha. Il n'y a qu'en la croix qu'on peut se glorifier. Parce que le Fils de Dieu est mort pour moi, il y a bientôt 2000 ans. Toujours dans l'Épître aux Galates, c'est au chapitre 2, ce verset bien connu, chapitre 2, le verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Ça, c'est important. Il n'était pas seul sur la croix. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Ça, c'est quelque chose de précieux, de réaliser que, puisque j'ai cru en Jésus-Christ, je suis donc crucifié avec lui à Golgotha. Et ce que je vis, c'est plus moi qui le vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que chacun puisse réaliser ses paroles, qui semblent évidemment me dépasser au combien. Dans le même ordre d'idées, Paul en parle aussi dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 6. Et au verset 5 d'abord. Versets 5, 6 et 18. Alors, le verset 5 de Romains 6. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Et au verset 18, « Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. » Nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. C'est-à-dire que nous avons été faits une même plante avec le Christ, crucifié à la croix de Golgotha. Et ainsi, c'est notre vieil homme qui a été crucifié. S'il a été crucifié il y a 2000 ans, il n'est donc plus en nous. Ce qui subsiste en nous jusqu'à la mort, c'est la chair. Ce n'est pas le vieil homme. Ce vieil homme nous obligeait à pécher. Maintenant, nous ne sommes plus obligés de pécher. Nous sommes libérés de la puissance du péché, notre vieil homme ayant été crucifié à la croix de Golgotha quand nous nous sommes convertis. C'est pourquoi maintenant l'apôtre vous dit, vous êtes asservi non plus au péché, mais à la justice de Dieu, pour accomplir des actes justes. en 1/2, 1/2, versets 9 et 10, autre conséquence glorieuse pour nous, 1/2, verset 9, mais vous, nous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Imaginons ce que l'apôtre Pierre nous dit là. Nous, une race élue, alors nous n'appartenons pas au peuple élu. Une sacrificature royale, des prêtres, des rois, alors que nous étions gens des nations, des païens. Une nation sainte, nous qui sommes des gens des nations. Un peuple acquis, acquis par Dieu et pour lui, pour annoncer les vertus de la croix. Dieu qui nous a appelés des ténèbres où nous étions, à sa merveilleuse lumière, la lumière du ciel. Et au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, par opposition au peuple juif, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant, par Jésus-Christ, avez obtenu miséricorde. Et enfin, je terminerai avec ce verset de Luc 9. Conséquence de la croix de Golgotha, qui nous concerne directement. Luc 9, c'est le verset 23. Et Jésus disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » Voilà notre part. Il y a la croix de Golgotha, c'est un fait historique il y a 2000 ans, presque. Et puis maintenant, dans notre vie d'aujourd'hui, nous devons chacun prendre sa croix, ce qui se présente à nous, ce que Dieu place devant nous à accomplir. Les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance, nous devons les prendre. Et dans Luc, il est bien marqué chaque jour. Chaque jour. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on suivra le Seigneur, à condition d'accepter cette croix. Ce qui est absolument merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus, lui, il savait tout ce qu'il allait endurer, tout ce qu'il allait devoir traverser sur cette croix. Il connaissait parfaitement la signification de tout cela, et il est resté conscient jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, à notre tour, on peut bien, par la grâce de Dieu, porter, accepter cette croix dans chacune de nos journées, pour notre bénédiction, mais surtout pour sa gloire. On va se lever pour chanter le 43, la troisième strophe.
Dans la montagne, priez.
la dernière étape de nos quatre grandes étapes, de la quatre grandes étapes de la vie de Jésus, donc sa résurrection. Je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28. Or, sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange répondant dit aux femmes, pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Jusque-là. Donc le Seigneur Jésus est mort le vendredi après-midi. Et on a lu dans Deutéronome 21 que c'était une ordonnance en Israël. Les corps ne devaient pas rester la nuit sur une croix ou pendu. Ils devaient être ensevelis. Et c'est à ce moment-là que un homme, un serviteur de Dieu, un disciple, Joseph d'Arimathée, dont on n'avait pas entendu parler jusque-là, sort de l'ombre pour un service courageux. Il fallait demander à Pilate le corps de Jésus. Et dans un évangile, il est dit qu'il prit sur lui. Donc ça comportait certainement des risques d'être du côté d'un crucifié dont on s'était débarrassé. Et Joseph d'Arimathée était un homme riche et il avait un sépulcre qui est représenté ici, sépulcre taillé dans le roc avec une pierre ronde devant. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi un jour à ce service de Joseph d'Arimathée, de descendre le corps de Jésus de la croix. Alors généralement, quand on clouait les crucifiés, on étendait la croix par terre et puis on clouait. Et puis, c'est terrible. C'est terrible. Et après, on dressait la croix. Alors je ne sais pas si on faisait l'inverse, si on couchait la croix pour déclouer. Il semble que non, parce que deux évangiles disent qu'il a descendu le corps. Mais vous vous rendez compte un petit peu, c'était pas forcément très haut, mais tout de même, il fallait, avec un marteau, déclouer les trois clous. Il y en avait seulement trois, pas quatre. Et en les ébranlant. Et puis, un corps mort, récemment, c'est difficile, il fallait pas qu'il le tombe de la croix. Et après, il fallait tirer les clous de la chair. Je pense à l'émotion de Joseph d'Arimathée. C'est possible qu'il y avait des larmes qui roulaient sur ses joues. Et tenir un corps inerte. Et surtout, le corps du maître. Je me souviens, c'est un souvenir ancien déjà, notre père tenant sa sœur aînée inerte dans ses bras. Je ne l'ai jamais autant vu bouleversé que ce jour-là. Déjà porter un cercueil, c'est fort, mais porter un corps, c'est autre chose. Et Joseph d'Arimathée a fait un service unique. Et il a accompli aussi une prophétie de l'Ancien Testament, Isaïe 53, il sera avec le riche dans sa mort. Si Joseph d'Arimathée n'avait pas été manifesté, il aurait été jeté dans la fosse commune, parce que où on jetait les brigands crucifiés. mais ce n'était pas possible. Et Dieu a suscité cet homme pour le moment précis. Il avait un tombeau, il était riche. Tout le monde n'avait pas un tombeau creusé dans le roc. Dieu dirigeait tout et prenait soin du corps de celui qui avait accepté l'humanité et qui avait pris un corps. Et on voit dans la fin du chapitre 19 de Jean, trois fois il est dit le corps de Jésus, c'est pas rien cette expression, le corps de Jésus, et puis après la quatrième fois, Jésus. Alors, la personnalité c'est quoi? Le corps ou l'esprit? Eh bien les deux. Tu seras avec moi dans le paradis, c'est l'esprit qui s'en va, mais n'empêche que le corps, nous nous voyons réciproquement dans un corps et nous nous identifions par le corps. Et nous ne nous identifions pas par l'esprit que nous ne voyons pas. Et bien pour Jésus, c'était pareil. Trois fois le corps de Jésus, après Jésus. Ils ensevelirent Jésus. Et donc il a été enseveli le vendredi soir avant 6 heures. Donc le changement d'heure, le changement de jour chez les Juifs, c'est à 6 heures du soir, 18 heures. Et donc c'est pour ça qu'il a été dans le sein de la terre 3 jours, enfin pas 3 jours entiers, mais sur 3 jours. Et Joseph d'Arimathée, donc, il ne l'a pas mis dans un cercueil, il l'a mis dans un linceul qu'il avait acheté, enroulé selon la coutume des Juifs, ce qui ne se fait pas ici. Et de le porter du calvaire au jardin où il y avait la tombe, dans un évangile, ça paraît tout près. Mais enfin, quand même, porter ça aussi, Jésus dans les bras. Siméon l'avait porté dans ses bras tout petit, alors porter un nouveau-né vivant, et c'est agréable, mais porter une dépouille mortelle. Et puis, il devait être bouleversé lui aussi, enfin, c'était ce Messie promis, et voilà qu'il était inerte. Il devait être bouleversé. Et il l'a déposé là, dans le tombeau, il y avait une banquette sur le côté, et il l'a déposé et avec Nicodème qui était arrivé aussi avec des aromates et en quantité pour mettre autour du corps de Jésus. Puis tous les deux, ils ont fermé la pierre. Et j'ai lu que ça pouvait peser une tonne, ça. Et donc ils l'ont roulé à deux. Ils l'ont fermé. Si nous pouvons être émus et bouleversés en pensant que le Créateur des mondes était là dans la crèche, nous pouvons aussi être bouleversés en pensant que le Créateur des mondes était dans la tombe, fermée. C'est inouï, ça. Il ne faut pas oublier que la mort, c'est à trois aspects. Le salaire du péché, le jugement de Dieu et la puissance de Satan. Il semblait que quand la tombe de Jésus était fermée et qu'il était dedans, inerte, mort comme les autres hommes, sans aucune différence, il semblait que Satan avait triomphé et que son pouvoir sur Jésus était là, pesé de tout son poids. Il est dit dans l'évangile de Marc, des disciples, donc à partir du jeudi soir, la crucifixion, ils sont restés tranquilles tout le sabbat. Et il dit dans l'évangile de Marc qu'ils étaient dans le deuil et pleuraient. Et j'ai souvent pensé aux disciples dans ces deux nuits et ce jour entier du samedi, leur désespoir, leur bouleversement, enfin ce Messie qui avait fait tant de miracles, qui avait ressuscité des morts. Rien n'avait pu résister à sa puissance. Le voilà qu'il était couché lui aussi dans la mort. Si ce n'eût été, les prières du Seigneur Jésus avant, ils auraient sombré dans le désespoir. Pendant ces deux nuits et cette journée du samedi, je crois qu'il est juste de dire que les disciples et tous ceux qui avaient cru en Jésus, il n'y avait pas que le groupe des 11, ont touché le fond. Heureusement que Jésus avait prié pour eux afin que leur foi ne défaille pas, pas seulement Pierre. C'était terrible. Et donc, le dimanche, entre le samedi et le dimanche matin, ça a été une terrible nuit. La nuit enveloppait ce tombeau. Une nuit sépulcrale. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes allé, moi non plus, mais je n'ai pas trop envie de faire l'expérience. D'aller par un clair de lune dans un grand cimetière. Et il y a beaucoup de monde. Mais on n'entend rien. C'est sinistre. Mais sinistre la nuit. Là, c'était pareil. Sombre nuit. Horreur d'une nuit profonde. On n'entendait rien. Sauf de temps en temps le cliquetis des armures des soldats qui veillaient et qui luttaient contre le sommeil. Les lueurs de l'aube ont commencé à pointer à l'est. Et là, j'imagine que deux formes humaines glissent discrètement le long des murailles de Jérusalem. Ce sont deux femmes qui s'en vont au tombeau. Je les imagine un peu courbées dans la douleur. Peut-être ont-elles les yeux gonflés par une nuit sans sommeil. Comme dans les grands deuils, on ne dort pas. Elles vont au tombeau avec leurs aromates. Elles veulent prodiguer une dernière fois les soins à leur maître bien-aimé mort. Elles veulent manifester encore une dernière fois leur amour en portant ces aromates. Nous savons qu'elles arriveront trop tard. Mais elles y vont. Et en chemin, si on s'était approché l'une dit à l'autre, qui nous roulera la pierre? Ah oui, si elle pèse une tonne de femmes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là autour du tombeau? Ben, c'est le calme absolu, comme je l'ai dit. Que le cliquetis des armures des soldats qui luttent contre le sommeil. Mais l'aube blanchit de plus en plus. Quand tout à coup, un éclair déchire la nuit, un ange descend, roule la pierre et s'assit sur elle pour manifester sa puissance. Et son aspect est comme un éclair. C'est toujours, il faut faire toujours attention quand l'Esprit de Dieu nous donne comme quelque chose. Le Saint-Esprit nous parle avec une sagesse divine. Qu'est-ce que c'est que l'éclair? C'est un arc électrique qui se produit entre la base du nuage et la terre. Et la différence de potentiel entre la base du nuage et la terre peut atteindre jusqu'à 100 millions de volts. Et ça fait une décharge électrique terrible qui peut atteindre pendant quelques millisecondes 30 000 degrés. Autant dire que nous sommes foudroyés. C'est pour parler de cette puissance infinie de l'ange. Une petite parenthèse, précédemment, le Seigneur, quand on voulait l'arrêter, il a dit à Pierre, « Mais si je voulais, je pourrais appeler 12 légions d'anges à mon secours. » 12 légions d'anges, ça veut dire 60 000 anges. Et avec la puissance que je viens de vous dire, c'était la puissance infinie qui était à la disposition du Seigneur. Et cette puissance infinie de Dieu, elle se manifeste maintenant en ressuscitant le Seigneur Jésus. Quelle puissance divine! Il y Rien ne peut résister à la puissance divine, même pas la mort. Alors que la mort résiste à tous les professeurs de médecine. Quand quelqu'un est mort, ils disent, ben voilà, on ne peut plus rien faire, on a fait tout. Maintenant, on est impuissant. Tout le monde abdique devant la mort, pas Dieu. Et la résurrection du Seigneur Jésus nous montre que pour Dieu, tous les recommencements sont possibles. La résurrection du Seigneur Jésus nous montre que Dieu est plus fort que cette conséquence du péché, cette conséquence terrible, qui pèse encore sur nous. Nous ne sommes pas sûrs de sortir tous de cette grange, après tout, mais la puissance divine est supérieure à la mort. Et nous, nous n'avons pas le choix de mourir. Nous mourrons tous un jour, sauf si le Seigneur nous enlève, mais nous n'avons pas le choix. Mais lui avait le choix, on l'a lu. La septième parole de la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », alors qu'Étienne a dit « Reçois mon esprit ». C'est pas pareil. Nous ne pouvons pas remettre notre esprit à Dieu, nous. Nous pouvons dire « Reçois mon esprit ». Donc le Seigneur, c'est pas juste de dire que les... Que